Christ jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Verset 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller une heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Verset 39. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, s'approche. » J'aimerais vous parler de Ruben Aguila. Pour ceux qui ne connaissent pas Ruben, c'est l'arrière-petit-fils de Nancy et Bill Francis. En janvier 2012, puis je crois que c'est le 1er janvier, ses parents à Ruben ont appris une très mauvaise nouvelle. Ruben avait un cancer, un neuroblastome avancé et agressif. Une tumeur de 6 par 8 pouces pour un jeune de 19 mois. Il avait cette tumeur-là à l'abdomen. Il y avait des métastases au poumon. Les médecins n'étaient vraiment pas optimistes. Ils disaient qu'il n'y avait presque pas de chance de s'en sortir. Ils disaient, les médecins mentionnaient que ça prendrait un miracle pour qu'il puisse s'en sortir. Et à partir de ce moment-là, la famille, les amis, les chrétiens, beaucoup de personnes commencèrent à prier pour la guérison de Ruben. Les semaines passèrent, les mois passèrent au travers de toutes sortes de traitements. Puis au mois de mai de cette année, plus de traces du cancer. Amen. Souvenez-vous de Doris de Zaunier, notre sœur Doris, qui elle aussi a eu cette dure épreuve de vivre avec un cancer. Puis je me souviens que l'Assemblée a prié pour elle, les frères et sœurs, vous avez prié pour elle. On a prié pour sa famille, on a prié. Puis son cancer est disparu. Amen. Lisette Saint-Pierre, Marc Beauchemin, cancer. On a prié. Tout le monde a prié. Ben, on a prié. Les chrétiens ont prié. La famille ont décédé. Est-ce qu'on dit amen à ça? Oui. Pas amen parce qu'ils sont partis. Mais c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. La question qu'on peut se poser, pourquoi? Pourquoi que certaines personnes guérissent? Pourquoi que Dieu permet que certaines personnes guérissent puis permet que d'autres ne guérissent pas? Si Dieu est bon puis est en contrôle, pourquoi qu'il a permis que M. Beauchemin décède? Madame Saint-Pierre ou d'autres personnes que vous pensez. On va y revenir un petit peu plus tard. Lorsqu'on vit dans des épreuves, j'imagine que tout le monde a vécu des épreuves dans leur vie, Puis si vous n'en avez pas vécu, ça ne sera pas long. Vous allez en avoir. Puis lorsqu'on discute avec les chrétiens concernant les épreuves, la plupart d'entre eux vont nous dire que la première chose à faire, c'est de prier. C'est vrai. Ça devrait être la première chose à faire. Dernièrement, j'étais dans l'État de la Géorgie. J'ai assisté à une graduation dans une université chrétienne. Et puis, le prédicateur prêchait sur la prière. Puis, il mentionnait que chez lui, dans sa maison, il s'avait mis quelques notes dans des endroits, chambre de bain, dans des endroits stratégiques, il s'avait mis des petites notes. Puis, la note qu'il avait marquée sur son papier, c'était « Pray first ».« Pray first », »,« Priez d'abord ». Première chose qu'on devrait faire, prier d'abord. Puis lorsque je discutais avec Doris au moment qu'elle vivait son épreuve de cancer, je lui disais, Doris, on prie pour toi, on prie pour la famille. Puis je me souviendrai toujours sa réponse. Elle m'a dit, je le sais que vous priez pour moi. Je le sais, je le ressens. Puis vous parlez avec d'autres chrétiens qui vivent d'autres épreuves, ils vont dire, tu pries pour moi? Ah, merci, ça me fait du bien de le savoir. Ça me fait du bien de savoir que tu pries pour moi. Puis malgré tout ça, il y a des personnes qui sont dans l'épreuve, pour toutes sortes d'épreuves, puis leur situation ne s'améliore pas. Puis même, ça se dégrade. Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? On prie pour le rétablissement de la santé. Est-ce que Dieu ne répond pas à la prière? Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. J'ai divisé le message en trois points, qui sont trois questions. La première question qu'on va se poser, c'est quels étaient ses sentiments? Quels étaient les sentiments de Jésus pendant qu'il était au jardin de Gethsémané en train de prier? Quels étaient ses sentiments? La deuxième question qu'on va se poser, c'est quelle était sa requête de prière? Et la troisième question, c'est que s'est-il passé après la prière? Premier point, quels étaient ses sentiments? Jésus, 100% Dieu, 100% homme, il avait exactement les mêmes sentiments que nous. Il avait de la peine, il avait de la joie, il souffrait, la même chose que nous. Puis, il n'était pas dans le jardin, là, lorsqu'il priait à son père, c'était pas comme un robot, hein? C'était pas, OK, comme au verset, mettons, 36. Il disait, « Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, ta volonté. » C'était vraiment pas comme ça. Les termes qui sont utilisés au verset 33 nous parlent de frayeur et angoisse. Frayeur et angoisse. Si vous aimez mieux pour frayeur, une grande peur. Une grande peur, une grande détresse. Il était dans une grande détresse, une grande peur. De la terreur, c'est fort, le terme est très fort ici dans l'original. Être en effroi, voilà comment il se sentait Jésus. Les angoisses, je vérifie dans le Petit Larousse la définition d'angoisse. Peur intense face au sentiment d'un danger imminent. Savais-tu ce qui s'en venait pour lui, Jésus? Peur intense face au sentiment d'un danger imminent. Jésus angoissait par rapport à ce qui était pour lui arriver. En En 1993, à mon voyage de noces, c'est la bonne année, hein? on a été au Mont Killington dans le Vermont. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Il semblerait que c'est une des montagnes les plus hautes des États-Unis. Ma femme m'a demandé si on pouvait aller en haut de la montagne. Il paraît que la vue est imprenable. J'ai dit oui, j'ai pris mon courage à deux mains parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose. J'ai le vertige. Je suis ici, là, puis... Non, ça va. Fait que je prends mon courage à deux mains, on y va. On embarque dans le chairlift, dans le remonte-pente, c'est ça? Assis toutes les deux à côté de l'autre. On part, on monte. Ça allait quand même assez bien parce que du sol... C'était pas trop haut, c'était pas pire. En haut, je voyais que c'était loin. Écoutez, c'est à peu près 15 minutes que ça prend à monter, là, tellement que c'est haut. Puis à un moment donné, j'ai la bonne idée de regarder à l'arrière, à peu près vers le milieu parcours. J'ai la bonne idée de regarder... Oh! Ça commence à pas filer, là. Ça allait pas, là. Je commence à tenir les barreaux, les doigts blancs, le bout des doigts blancs. Je dis à ma femme, parle-moi pas. Parle-moi pas. Ça va pas, là. Fait que là, on continue à monter. Finalement, on arrive en haut. Rendu en haut, mes amis, c'est vaste. Tu vois, il semblerait qu'on peut voir deux ou trois États, là, tellement c'est haut, là. C'est pas des blagues, là. J'arrive en haut. Il y a une table à pique-nique. J'arrive à la table à pique-nique, je fais ça de même. « John, faut que je descende. Je suis plus capable. Vite! » Je paniquais littéralement. J'étais en mode panique. J'étais angoissé. J'étais dans une frayeur épouvantable. Je ne sais pas si ceux qui ont le vertige, probablement vous me comprenez, là. On perd les pédales. On perd le contrôle. Je ne suis pas en train de dire que je sais ce que Jésus a vécu, mais une petite affaire. C'est vraiment pas agréable de vivre une sensation comme ça. Verset 34. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça se peut-tu qu'on meure de tristesse? J'ai vérifié un petit peu, j'ai fait des recherches côté-là, puis... Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais mon âme est triste jusqu'à la mort. Tu te sens comme tu n'es plus capable. Tu veux mourir. C'est trop, c'est insupportable. Jésus était dans une profonde et intense détresse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Verset 35, il se jeta contre terre. Le fardeau que Jésus avait sur lui était insupportable. Il se sentait comme vraiment écrasé, détruit. La tentation, n'oubliez pas qu'il était 100% Dieu aussi. Il avait le pouvoir de tout arrêter ça. Certains commentateurs ici nous disent que c'est une forme, lorsqu'il s'est jeté à terre, c'était comme une forme de soumission. D'abaissement. Oui, peut-être. Je ne suis pas contre. Mais je pense aussi que le fardeau, la pression qu'il subissait a fait qu'il s'est jeté par terre. Mes amis, on ne peut pas exagérer ce que Jésus vivait à ce moment-là. L'agonie qu'il vivait, on ne peut pas exagérer ça. Frayeur, et des angoisses. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il se jeta contre terre. Dans Luc 9, 22, Jésus qui parle, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Permettez. Jésus connaissait le futur. Il savait ce qui s'en venait. Aimeriez-vous ça, connaître le futur? Je pense que ce serait la pire chose à avoir. Imaginez-vous, là, vous êtes en début d'année, vous prenez votre calendrier, puis là, vous encerclez les mauvais moments qui vont arriver. Parce que là, vous savez le futur. 3 mars, ma sœur va décéder. 8 juin, je perds ma job. 14 novembre, je suis impliqué dans un accident puis je meurs. Ça serait-tu terrible de savoir ça? Lorsqu'on cédule une vacance chez nous, ma femme, il y a une chose qu'elle aime beaucoup faire. C'est prendre un calendrier puis faire un décompte. Si, mettons qu'on va en vacances le 1er juillet, environ 2 mois avant, elle va faire un calendrier avec un décompte. Ça veut dire, mettons, il reste 60 jours. Le lendemain, il reste 59. Comprenez-vous, là? Il reste 58 jusqu'à la journée du départ. Mais imaginez-vous, là, il reste 30 jours avant que ma sœur décède. Ça va être demain. Ça va être demain que je vais perdre ma job. Ça va être demain que mon fils va apprendre qu'il y a une maladie incurable. C'est épouvantable. Ça serait épouvantable. Jésus, lui, le savait. Jésus connaissait le futur. Il savait ce qui l'attendait. C'est pas pour rien qu'il est en détresse puis en frayeur. C'était épouvantable ce qui s'en venait. En 1988, ça c'est moi, j'ai eu un accident assez grave au baseball. J'ai fait un face-à-face avec un des joueurs avec qui je jouais. Puis je vous dis, là, à courir que j'ai, je m'en venais à pleine vitesse, puis on a fait un face-à-face ensemble. Résultat, double fracture. Fracture de la mâchoire ici, fracture de l'orbite de l'œil. Coupure à l'œil gauche. Une commotion cérébrale extrêmement sévère. J'ai eu une hémorragie interne. J'étais aux soins intensifs, hospitalisé pendant une semaine. Migraine atroce, migraine épouvantable. Écoutez, je vous le dis, là, j'étais à la morphine aux 3 heures tellement que c'était insupportable. Puis ça, c'est sans compter qu'on m'a mis des tiges de métal là, au niveau de l'œil, de la mâchoire. J'ai eu la mâchoire brochée pendant 1 mois. Pas capable d'ouvrir la bouche. Je vais avoir 50 ans, vendredi, c'était la plus grande souffrance physique que j'ai jamais vécue. Puis juste de m'imaginer, de l'avoir su d'avance que cette journée-là, en mai 88, était pour arriver, j'aurais pas été à la game de baseball. J'aurais pas été, je vous l'assure. Jésus y a été. Jésus y a été. Et continuez. Quelle était sa requête de prière? Première requête, on le voit au verset 35. Regardez au verset 35. Vers la fin du verset, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Première requête que Jésus demande à son Père, éloigne-moi cette heure. Éloigne de moi cette heure. C'est comme si Jésus est en train de dire, y a-tu un autre moyen? Y a-tu un autre moyen? Éloigne de moi cette heure. La deuxième requête, verset 36, à la fin, bien au milieu. Éloigne de moi cette coupe. Ici, dans l'original, le mot éloigne pour la coupe n'est pas la même que pour l'heure. Il est plus dans le sens de « enlève ». La traduction en anglais, je préfère la traduction en anglais qui dit « remove the cup ».« Remove the cup ». « This cup ». Puis la coupe représentait la coupe de la colère de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a des versets qui nous en parlent. On n'aura pas le temps d'aller le voir, mais Isaïe 51, Psaume 75 et Jérémie 49 nous en parlent. Ce qu'elle voulait dire, la coupe de la colère de Dieu, c'était le jugement que Dieu avait sur les méchants, sur les pécheurs. À trois reprises, à trois fois, Jésus demande à son Père d'éloigner la coupe. Regardez, verset 36. Éloigne de moi cette coupe. Verset 39. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Verset 41. Il revint pour la troisième fois. Matthieu est encore plus précis. Matthieu nous dit, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Trois fois, Jésus demande à son Père, enlève la coupe, enlève la coupe. C'était tellement intense que Luc, dans Luc 22, il nous parle des grumeaux de sang. En étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Un énorme stress, une grande détresse. À trois fois, « Papa, éloigne de moi cette coupe. » Jésus s'en allait porter les péchés de l'humanité et subir la colère de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu est en train de dire à Jésus, « Jésus, je te punis toi pour ce qu'eux ont fait, pour ce qu'eux méritent, pour ce que moi je mérite, puis pour ce que vous méritez. » Puis là maintenant, on arrive au texte clé de notre histoire. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. S'il était possible. C'est pas parce que Jésus pensait pas que Dieu n'était pas capable. Regardez au verset 36. « Toutes choses te sont possibles. » Il savait qu'il était capable. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la clé. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis je reviens à mon accident. Puis il me semble que si j'aurais eu à faire face à ça, que Dieu m'aurait demandé, garde, il faut que tu y ailles. J'aurais été vraiment moi aussi en panique, en angoisse, parce que j'aime autant pas m'imaginer de le savoir d'avance. Facile à dire, pas facile à faire. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La requête que Jésus a fait à son Père, c'est de se soumettre à sa volonté. C'était sa vraie requête. C'est exactement cette attitude-là qu'on devrait avoir. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Rappelez-vous Jésus, dans Matthieu 6, au Mont des Oliviers. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. La prière est avant tout une soumission volontaire au plan de Dieu. Une soumission volontaire au plan de Dieu. Depuis fin avril, je suis en arrêt de travail. Problème avec une hernie discale. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je sais que Dieu est en contrôle. Je sais qu'il y a un but. Je ne vous dis pas que c'est facile. Puis vous le savez, vous aussi. Mais il faut s'en remettre à lui. C'est l'attitude qu'on doit avoir. Christ s'est soumis à la parfaite volonté de son Père, devenant vraiment un exemple pour nous. Dans son plan, Dieu avait décidé de guérir Reuben puis Doris. Puis dans son plan, il avait décidé de ne pas guérir M. Beauchemin et Mme Saint-Pierre. Troisième point, que s'est-il passé après la prière? L'heure ne s'est pas éloignée de Jésus. Le Père n'a pas enlevé la coupe de sa colère. Puis il ne l'a pas libéré de ses souffrances. On peut-tu dire que Jésus n'a pas eu ce qu'il demandait? Pas du tout. La vraie requête de Christ, c'est qu'il voulait absolument que la volonté de son Père s'accomplisse. C'était sa vraie requête. On a vu ce qu'il voulait. Il voulait que l'heure s'éloigne, que la coupe s'éloigne. Mais il a dit, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, en conclusion, vous êtes dans l'épreuve présentement, frères et sœurs? Peut-être que vous avez un enfant de malade? Peut-être que vous avez perdu votre travail. Ou peut-être vous-même, vous êtes malade, ça ne va pas. Si l'épreuve par laquelle vous passez là, vous semble tellement difficile, insoutenable, remettez-vous-en à Dieu. Ayez confiance en lui. Priez d'abord. Priez d'abord. Priez Dieu. Demandez que sa volonté soit faite. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est la chose le mieux pour nous. Puis Jésus est compatissant et sait exactement par quoi vous passez. Il le sait exactement parce qu'il a passé par toutes sortes de difficultés. On l'a vu tantôt. Remettez-vous-en à Dieu. Hébreux nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Un Dieu compatissant, il sait par quoi vous passez. Bon, un de mes versets préférés. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus a tellement souffert. Lui qui était parfait, sans tâche, sans défaut, innocent, il a tout fait ça pour vous, pour moi. C'était pour nous sauver. Pour nous sauver de la colère qui pesait sur nous. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs? On dit-tu amène à ça? On va prier. Oh Seigneur Jésus, tu as tellement souffert. Seigneur, cela nous prouve tellement comment tu nous aimais. Tu étais prêt à payer ce prix, malgré que c'était intolérable. Tu l'as quand même fait, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à chaque jour de notre vie, de te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et ce matin, on n'a pas mis en veille la croix. On a seulement vu les préliminaires, Seigneur, à la croix. Et on sait que la croix aussi, ça a été difficile. Les fouets, la couronne d'épines, les moqueries. Oh Seigneur, tu as tellement souffert pour nous. Nous t'en sommes extrêmement reconnaissants. Merci Seigneur de t'avoir offert pour nous en rançon, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous séparer par ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Merci, bon après-midi.